Vous écoutez le podcast « Entre les deux oreilles », le balado en santé mentale et santé mieux-être. Une présentation de Relief, un organisme qui vient en aide aux personnes avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Relief, le chemin de la santé mentale. Voici vos animateurs. Ils sont tous les deux des visages de la santé mentale et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro. 37e épisode du balado en santé mentale et santé mieux-être Entre les deux oreilles. On parle beaucoup ces temps-ci de la santé mentale des entrepreneurs, la santé mentale des gestionnaires, et avec raison. Depuis maintenant 4 ans, soit le début de la pandémie, bien de nombreuses données démontrent clairement que les managers et les leaders dans les entreprises sont mal en point. Selon une étude de McKinsey publiée en novembre 2023, bien les personnes plus à risque de vivre un épisode de burn-out ou qui témoignent d'une santé générale déficiente sont les gestionnaires de petites et moyennes entreprises. Mais qu'en est-il des hauts dirigeants de grandes corporations? Je parle d'entreprises employant des milliers d'employés et avec parfois un chiffre d'affaires de plusieurs millions, voire des milliards de dollars. On entend parler moins d'eux, n'est-ce pas? Bien, sont-ils immunisés au stress? Ces dirigeants-là sont-ils imperméables au burn-out, à la maladie mentale? Bien, j'en doute fortement. Mais pourquoi sont-ils généralement absents de la discussion? Je suis donc parti à la recherche de la perle rare. Ma recherche s'est concentrée sur 2 éléments importants. Premièrement, j'étais à la recherche d'une personne qui était ou est un haut dirigeant dans un poste névralgique de haut niveau au sein d'une grande corporation canadienne. On parle ici de plus de 1000 employés. Deuxièmement, je cherchais un haut dirigeant qui était tout à fait à l'aise de parler de ses enjeux de santé mentale et qui voulait aller au-delà de la ligne de parti. Donc, je cherchais un leader à la fois top performer, mais aussi authentique. Eh bien, après plusieurs semaines de recherche, j'ai finalement trouvé ma perle rare. Marie-Chantal Côté est vice-présidente garantie collective chez la financière Sun Life. Son parcours est vraiment atypique et lui a permis d'acquérir une expertise dans le développement d'équipes internationales, multifonctionnelles, performantes et de haut niveau. En fait, avant d'arriver aux garanties collectives, elle a fait sa marque en développant des solutions numériques et en mettant en place et pratique d'analyse d'affaires au Canada, en Inde, à Hong Kong et aux Philippines. Vous allez le constater durant l'entrevue, Marie-Chantal est une grande passionnée. Elle a une fougue et une énergie débordantes. Elle est dans mon livre à moi la définition même de l'authenticité. J'ai été frappé par sa grande ouverture à parler de ses enjeux avec la maladie mentale, mais surtout de sa volonté réelle à changer les mentalités et ultimement le monde du travail en entier. Pour moi, il s'agit d'une entrevue coup de cœur et sans aucun doute la plus frappante des entrevues que j'ai réalisées jusqu'à maintenant. Et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants en écoutant l'épisode. Alors sans plus tarder, mon invité cette semaine, Marie-Chantal Côté, vice-présidente à la financière Sun Life. Bonjour Marie-Chantal, comment vas-tu?
Bonjour Martin, ça va très bien. Toi, comment ça va?
Ça va bien. Hey, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça me fait bien plaisir.
Écoute, pour moi, t'es la perle rare. Déjà, les compliments, ça commence bien. Hein? T'es la perle rare parce qu'écoute, mon balado, je l'ai parti il y a peut-être un petit peu plus de 2 ans. J'ai reçu à peu près 35 invités, puis ça fait 2 ans que je suis à la recherche d'un haut dirigeant qui parle ouvertement de ses enjeux de santé mentale et bien sûr, qui est aussi un top performer. Puis je n'ai jamais trouvé. Qui était prêt à en parler ouvertement au balado. Et là, tout à coup, t'es arrivé comme un cadeau et tu t'es dit, « Mais moi, j'aimerais ça en parler. » Puis pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'ai beaucoup de hauts dirigeants et hauts dirigeantes qui m'ont déjà dit, sous le couvert de l'anonymat, « Martin, moi aussi. Moi aussi, je vis avec un trouble d'anxiété généralisé. Moi aussi, j'ai fait un burn-out, mais je suis pas prêt à en parler. » Fait que pour moi, ce sujet-là est vital. Puis je te remercie beaucoup pour ton ouverture aujourd'hui.
Bien, premièrement, c'est moi qui veux te remercier pour l'invitation parce que moi, je connais un peu ton podcast, puis j'ai vu les super invités là, qui sont joints à la discussion à travers les mois. Donc, c'est super intéressant. Merci à toi de continuer la discussion avec toutes sortes de personnes intéressantes qui parlent de ce sujet-là, le sujet de la santé mentale. Puis pour moi, personnellement, bien, pour moi, c'est comme une évidence de parler de ça comme de parler de toutes nos facettes comme dirigeants. Dirigeante. Moi, je pense qu'il y a comme des fois un mythe du haut dirigeant, haute dirigeante, un peu super-héros. Mm-hmm. Puis c'est pas vrai, honnêtement. Moi, je croyais moi-même à ce mythe-là, puis avant, je me disais, ben moi, je suis pas une super-héros, super-héroïne, fait que ce genre de rôle-là m'intéresse, mais je suis pas parfaite. J'ai pas, tu sais, je sais pas toutes les réponses, puis des fois, j'ai des vertiges, puis j'ai de l'anxiété, etc. Pour apprendre avec des super mentors, sponsors, etc., que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est parfait. C'est pas vrai qu'on est des super-héros. Au contraire, on est des humains qui faisons un rôle de ce qui était de stratégie, de vision, de réflexion à long terme, etc. On dirige des équipes. C'est ça qu'on fait dans la vie. Mais comme humain, on est tout aussi humain, humaine que tous nos collègues. Donc, pour moi, c'est important de démystifier ça. C'est important pour deux raisons. Premièrement, c'est important pour encourager tout le monde qui a des ambitions, peu importe le rôle que ce soit, de foncer puis de pas croire qu'il y a un type de personnalité ou un type de personne qui mettons, un meilleur fit pour ces rôles-là. Donc, première chose, pour que tout le monde fonce dans ce qu'ils veulent faire puis arrêter de croire qu'il y a des gens parfaits qui sont des leaders, parce que c'est pas vrai. Puis deuxièmement, puis surtout certainement le point le plus important, nous, à la Sun Life, on croit beaucoup en appuyer les employés, appuyer les employeurs qui appuient leurs employés pour discuter de santé mentale, pour en discuter, pour offrir des solutions, pour donner des pistes de réflexion. Puis comment on peut suggérer aux gens de faire ça si nous, on le fait pas? Comment on peut suggérer à notre gang que c'est le fun, puis que c'est facile, puis qu'on encourage de discuter de tous les aspects de notre santé physique, mentale, santé des femmes, santé des communautés LGBTQ+, etc. Comment on peut encourager les gens à le faire si nous, on ne fait pas partie du narratif? Moi, je crois beaucoup l'expression anglophone « walk the talk » quand les bottines suivent les babines, la version québécoise. Je crois beaucoup à ça comme leader. Parce que dans le fond, les gens font ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Donc, je pense que pour nous, à la Sun Life, c'est très important d'en parler. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, oui, je vis avec l'anxiété depuis plus de 25 ans. Ça fait partie de mon quotidien. Il y a des super moments, puis il y a des moments moins le fun. Puis je pense que ça fait partie de qui je suis comme dirigeante à la Sun Life. Puis, ben c'est ça, j'en parle ouvertement.
Mais bravo. Bravo parce que ce qu'on me dit souvent en tant que haut dirigeant, puis pour le bien de nos auditeurs, tu es vice-présidente Garantie collective d'une multinationale, la financière Sun Life, plusieurs milliards, un chiffre d'affaires de plusieurs milliards, c'est international. On parle souvent des top performers. Puis tu as mentionné tantôt que on pense que les leaders, les hauts dirigeants, ben c'est des personnes qui sont super-héros. Mais ce que j'aimerais connaître, puis tu en as parlé brièvement, ton parcours à toi. Oui, professionnel, mais en même temps, ton parcours qui a été parsemé de cette anxiété-là. Comment tu as vécu ton parcours personnel et comment l'anxiété s'est manifestée et a eu un impact sur ta carrière, par exemple?
Mais moi, j'ai le privilège de diriger l'équipe des garanties collectives là, pour le pays. C'est vraiment un grand privilège. Puis j'ai le privilège de faire partie de la grande équipe de Sun Life depuis 26 ans maintenant. Donc, mon parcours va beaucoup parler de la Sun Life. Mais je dirais deux ou trois points clés là, dans mon parcours. Premièrement, c'est pas un parcours linéaire. Moi, j'ai un bac en journalisme. J'étais très intéressée au TI à ce moment-là aussi. Donc, j'ai commencé à la Sun Life en TI. J'ai fait des rôles de technologie de l'information, numérique, etc., pour me rendre compte que la business au complet m'intéressait. Donc, j'ai fait un MBA. Puis ensuite, j'ai pris des rôles de plus en plus près de la business. Bien entendu, maintenant, le numérique puis la business, c'est très, très intégré. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment un privilège pour moi d'avoir un peu fait ces deux choses-là en même temps, puis d'amener ça tout ensemble maintenant. Tu sais, maintenant, il n'y a pas grande compagnie ou unité d'affaires qui sépare le numérique, l'automatisation, le digital, les données de la business. Pour nous, ça fait toute partie intégrante, là. Donc, j'ai eu ce parcours-là qui n'est pas très linéaire. Puis je dirais, peut-être pour mettre un peu la sauce anxiété là-dessus, je dirais que je pourrais peut-être parler des points forts puis les points moins forts. Qu'est-ce que ça a été les accélérateurs ou les choses où l'anxiété a peut-être aidé ou est-ce que ça a été un peu plus compliqué? Tu sais, les gens anxieux, puis tu sais, comme tout, j'hésite des fois à mettre les gens en catégorie, hein, parce mm-hmm. que je fais partie de la communauté LGBTQ+, aussi. Puis, tu sais, des fois, on est comme un groupe de gens. Donc, on est tous pareils, tous pareils, mais dans le fond, chaque humain est bien différent, même si on a des points en commun. Mais pour moi, l'anxiété, fait que je vais parler plus de mon expérience avec l'anxiété. C'est beaucoup par rapport, par exemple, à la santé. Donc, quand on décrit les hypochondriaques, là, c'est pas mal moins. Un peu d'autres aspects aussi. Mon plus grand mécanisme de contrôle qui est pas très bien adapté, là, j'ai fait de la TTC et bien appris que les mécanismes de contrôle ne sont pas aidants, mais ça, je l'ai su plus récemment dans ma vie, je le savais pas avant. Donc, j'utilisais beaucoup de mécanismes de contrôle, des plans. Moi, je suis top plan. Moi, j'ai des plans, j'ai un to-do par journée, par mois, par année, professionnel, personnel. Fait que moi, tu sais, mettons, quand j'étais en TI, quand j'étais chef de projet, des choses comme ça, ben c'est sûr que ma capacité de planifier était vraiment forte, beaucoup par mon anxiété, puis aussi par ma job, mais c'est sûr que ça m'a aidé. Aussi, moi, des scénarios, tu sais, quand on gère des risques, mettons, parce que nous, à Sanef, on est une compagnie qui porte un grand accent sur la gestion des risques, ben l'anxiété, c'est un peu la gestion des risques. Hein? Ouais. On évalue toujours nos risques, on les gère, on essaie de les contrôler. Hein? Si je vais voir tel médecin, il va pouvoir me détecter quelque chose avant que... Fait que ça aussi, hein, tu sais, moi, j'en ai des scénarios business, puis c'est comme si j'ai développé des mécanismes de... Bien, puisque je ne peux pas contrôler vraiment ma santé, bien, je vais me focusser sur ce que je peux contrôler puis dans la business. Fait que, tu sais, la planification, la gestion des risques, avoir une vue à long terme sur les choses, parce que ça, c'est l'autre chose aussi, l'anxiété. Regarder ce qui peut arriver demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans. Qu'est-ce que les compétiteurs peuvent faire? Tout ça, c'est vraiment des beaux atouts, honnêtement, d'avoir ces capacités-là. Tu sais, souvent, on parle de choses de santé mentale avec les aspects moins le fun. Puis il y en a des aspects moins le fun, je vais en parler dans une minute. Mais il y a des aspects aussi qui, honnêtement, m'ont propulsé, tu sais, d'avoir ça dans mon DNA, dans mon ADN, là, de planifier, puis de penser à long terme, puis d'évaluer des scénarios, bien... Tout ça, je le fais très naturellement pour plein d'aspects de ma vie.
Fait que tu vois l'anxiété comme une alliée, finalement.
Dans ce cas-là, oui. Okay. Fait que, comme tout dans la vie, hein, ouais. Il y a des côtés positifs, des côtés
amour,
négatifs.
Haine.
Ouais. Fait que ça, c'est les aspects positifs. Puis je les reconnais. Hein? Puis le problème avec les côtés positifs, c'est que ça se crée soi-même. Fait que là, ouais. On dit, hey, c'est le fun parce que je planifie bien, je suis bien reconnue. Ouais, mais dans le fond, c'est les mécanismes de contrôle, tu sais, mes affaires de contrôle qui sont pas toujours utiles. Fait que, tu sais, il faut faire attention aussi de pas trop utiliser ces choses-là. D'un point de vue moins fun, il y a l'aspect, par exemple, d'être inquiet de ce que les autres pensent.
Hein. Okay.
Tu sais, les gens anxieux, tu sais, même par exemple, quand je vais dire, ben, tu sais, même moi, par exemple, relié autour de la santé, ah, ben là, le médecin va me juger que je viens de voir ici pour ça, mais dans le fond, j'ai besoin de le voir parce que je suis inquiète d'avoir telle chose. Mais ça peut aussi se manifester au travail. Tu sais, quand on a des grandes ambitions, on veut lever sa main pour des rôles, on parle devant des gens, on lit des projets ambitieux, bien, c'est sûr qu'on prend des risques. Fait qu'il faut il faut se gérer, puis il faut passer au-delà de est-ce que les gens vont moins m'aimer, la peur du rejet, la peur de l'abandon, tout ce qui s'attache avec l'anxiété aussi. Fait qu'il y a cet aspect-là. Il y a bien entendu l'aspect de la rumination, tu sais, d'essayer de, tu as des projets importants, puis tout ça, mais en même côté, tu dis, oh my God, j'ai des palpitations, oh my God, j'ai-tu une crise cardiaque, j'ai-tu la COVID, tu sais, fait que c'est aussi tout ça, essayer de gérer ça dans sa tête, puis, tu sais, fait qu'il y a tous les aspects physiques et mentaux reliés aussi à l'anxiété. Fait que je dirais, il y a des aspects positifs, il y a des aspects moins positifs, puis honnêtement, moi, je peux parler personnellement, puis c'est vraiment très personnel, là, mais d'en parler, bien, premièrement, ça enlève un stress, parce que même d'en parler, tu sais, comme ouvertement au travail, ça enlève un peu le stress de tout d'un coup, j'ai un moment d'anxiété, puis tout ça, bien, tu le... Puis tu sais, ça a déjà arrivé à des collègues de dire, bien, je me sens pas bien, là, présentement, puis tout le monde respecte ça, puis tout ça. Fait qu'il y a cet aspect-là, puis il y a aussi, bien, les outils. Tu sais, je ne veux pas sous-estimer, moi, tu sais, la pharmacothérapie, l'appui de super psychologues, puis honnêtement, j'ai découvert la TTC plus récemment, puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis, tu sais, sans aller trop dans les détails techniques, mais pour moi, apprendre que tous ces contrôles-là, c'était pas utile, puis apprendre que, dans le fond, le plus grand apprentissage, puis ça, je peux vraiment l'appliquer dans ma vie professionnelle, c'est croire que peu importe ce qui va arriver, je vais être capable de le résoudre sur place versus anticiper tous les scénarios sur la planète puis me préparer pour tous ces scénarios-là. Puis ça donne tout un boost de confiance même dans la vie professionnelle parce que si tu crois ça par rapport à ta santé puis tout ça, puis tu crois ça alors par rapport à tes ambitions professionnelles, ça te donne un petit boost de confiance.
Écoute, Marie-Chantal, j'ai l'impression d'être séparée par un miroir. Je t'entends, puis je me dis, mon Dieu, elle me connaît-tu tant que ça? Mais on est dans la même équipe, hein, quand on vit avec l'anxiété. Et moi, ça fait depuis aussi loin que je me souvienne que je vis avec l'anxiété. Mais j'ai une question, parce que tu as parlé que tu en parles ouvertement. Puis c'est la raison pourquoi je voulais t'avoir sur le balado. Pourquoi c'est si difficile? Je sais que c'est une affirmation. Je pense que c'est appuyé par la science, par les sondages. Pourquoi c'est si difficile pour un haut dirigeant de parler ouvertement de ses enjeux de santé mentale? Sais-tu les conséquences? Sais-tu la peur du jugement? Sais-tu, je veux par respect pour mes employés? I don't know. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière, selon toi, pourquoi un haut dirigeant va garder ça pour lui ou va cacher peut-être son enjeu de santé mentale?
Je peux juste émettre des hypothèses parce que j'ai pas vu de recherche à ce sujet-là, mais je peux aussi faire un parallèle avec le fait que j'ai une conjointe depuis aussi, presque 27 ans, puis même comment ça c'était fréquent ou peu fréquent à travers les années que quelqu'un dans un poste assez senior parlait de ce genre de choses-là, de son homosexualité, de son identification de genre, etc. Je vais émettre l'hypothèse, puis je ne pense pas du tout que les membres de la communauté LGBTQ+, la santé mentale, c'est la même chose. Je pense, par contre, qu'il y a, on va appeler ça les groupes marginalisés, les gens qui peuvent se sentir différents, les gens qui ne sont pas, font pas partie de ce qu'on appelle le groupe le plus représenté, disons ça comme ça. Je pense, j'émets l'hypothèse que c'est relié avec cette perception et cette croyance qu'on doit être parfait et aussi la peur d'être jugé, la peur que notre performance soit associée à des choses qui sont peut-être, qui ont été marginalisées, etc. Ça, c'est juste une hypothèse. Mais moi, je peux dire que juste pour faire le parallèle avec un peu mon coming out, moi, pendant la moitié de ma carrière à Sun Life, je ne parlais pas vraiment de ça. J'avais une coloc. C'était ça, le narratif. Mais je me rappelle que je me disais des fois, bon, là, j'ai parlé que j'allais en voyage avec ma coloc. Là, j'ai parlé que j'avais fait ça avec ma coloc. Puis là, je me disais, oh, ouais, c'est beaucoup de coloc. Fait que là, fais attention. Puis je me souviens, donc là, t'sais, fin vingtaine, début trentaine, t'sais, on a plein de préoccupations dans la vie, plein de choses à penser, un travail, etc. Est-ce que vraiment c'était un bon usage de mes capacités intellectuelles de passer du temps là-dessus, émotive, à passer du temps là-dessus? Avec du recul, absolument pas. Puis encore, mais on met de l'anxiété là-dessus. Hein. Oh my God, qu'est-ce que j'ai dit tout haut? Est-ce que là, ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Blablabla. Puis à un moment donné, je me suis dit, genre, je vois pas beaucoup de gens comme moi qui le disent. Pourtant, je sais très bien. Hein. Tu sais, on connaît les statistiques. Hein. Fait que je me suis dit, je ne peux pas m'attendre de quelque chose des autres que moi, je ne suis pas prête à faire.
Mm.
Donc, je me suis dit, c'est important que moi, j'étais très bien dans ma relation, puis ça m'a beaucoup définie comme personne, cette relation-là. Ça me définit encore beaucoup. Tout le monde sait que ma conjointe est vraiment mon rock. Là. C'est elle qui me permet de faire beaucoup de choses que je fais. Puis j'en suis fière, donc je vois pas pourquoi je n'en parlerai pas plus, pas moins que quelqu'un d'autre. Tu sais, que mon collègue masculin parle de sa soirée avec sa blonde, puis que moi, je parle de ma soirée avec ma conjointe, c'est devenu un non-issue, puis j'ai commencé à le faire. Puis là, tout d'un coup, c'est devenu que d'autres l'ont fait, beaucoup d'autres l'ont fait. Je pense pas que c'est moi qui ai créé ça, je pense que c'est nous qui avons créé ça, en créant l'environnement safe, sécuritaire. Je pense que ça prend un peu de courage pour faire ça, puis un peu de conviction que, A, ce qu'on fait, c'est normal, puis que c'est très correct, puis B, que si on le fait, d'autres le font, on le fait, puis tout ensemble, on devient une gang de gens qui normalisent ça, qui enlèvent les stigmas. Je pense que c'est un peu la même chose avec le discuter de santé mentale. Fait que, tu sais, le même parallèle de dire, il n'y a absolument rien de mal au fait que j'ai de l'anxiété. Je pourrais avoir aussi, je sais pas, là, je pourrais avoir des problèmes de pied, puis j'en parlerais, puis je dirais, mais désolé, j'ai mon problème de pied qui m'achale aujourd'hui. Puis le monde dirait, ben oui, on peut-tu t'aider, on peut-tu te donner une chaise, es-tu correct, OK. Puis personne ne penserait rien. Fait que moi, je dis, ben moi, j'ai aujourd'hui mon anxiété plus forte, ben je vais prendre ma médication, puis ça va aller, puis tout va bien. Fait que j'ai vu d'autres en parler, j'ai vu que ça se normalise. Puis aussi, ça revient aussi un peu, moi je pense comme dirigeante, une de mes plus grandes, tu sais, on cherche beaucoup du sens dans la vie. Puis moi, si je peux aider mes équipes à se sentir plus sécuritaires, tu sais, si moi je parle de mes tous les aspects de ma vie qui font de moi, tu sais, on a des intersectionnalités, là, tu sais, moi je suis plein d'affaires, puis toi t'es plein d'affaires. Puis, mais si on en parle un peu, les autres vont nous parler de leurs intersectionnalités qui sont peut-être pas pareil, mais qui sont aussi les leurs, puis qu'on crée un environnement sécuritaire. Puis là, tu sais, là, il y a toutes les... Bon, c'est la bonne chose à faire, mais il y a aussi toutes les recherches, le monde, les organisations sont plus performantes, ils attirent des talents diversifiés. Tu sais, on veut avoir du monde diversifié, bien, A, faut les engager, et puis B, il faut leur laisser la chance d'être diversifiés. Ça veut dire qu'il faut laisser la place à toutes ces facettes-là de l'humain qui les font diversifier. On est plus innovateurs, on performe plus. Nos clients, tu sais, nous autres, on est un grand assureur dans le pays. Nos clients, ils ont ce qu'on a, tu sais, on en parle. Eux autres aussi, tu sais, on est plus réel avec nos clients. Il y a 1000 conséquences positives aussi pour les organisations.
Une brève pause pour remercier nos partenaires qui supportent Entre les deux oreilles et permettent la réalisation de ce balado. Entre les deux oreilles aimerait tout d'abord remercier Relief, le chemin de la santé mentale. Au cours de notre vie, il est normal de rencontrer des hauts et des bas. Ces irrégularités façonnent qui nous sommes et nous rendent toutes et tous uniques. Mais pour les personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité et leurs proches, ces passages plus sinueux peuvent parfois se transformer en montagnes. C'est pour ça que Relief existe, pour vous aider à vivre avec votre relief à vous. Parce qu'avoir les outils pour reprendre votre santé mentale en main, c'est déjà être sur la bonne voie. Relief offre plusieurs services pour vous aider à vivre avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité. En groupe ou individuel, peu importe la voie que vous choisirez, l'approche de Relief demeure la même, le soutien à l'autogestion. Pour de plus amples détails, visitez le site relief.ca. À nouveau, pour des détails sur les services de Relief, le chemin de la santé mentale, visitez le site relief.ca, soit relief.ca. Entre les deux oreilles, j'aimerais aussi remercier InPower. InPower est une entreprise de Montréal qui se spécialise dans la mesure et l'amélioration du bien-être. InPower a développé la première application mobile d'auto-coaching qui permet à l'utilisateur de mesurer son état de bien-être physique, mental et social sur plus de 30 aspects de vie, d'intervenir sur certaines perturbations de son quotidien et de mesurer l'impact de ses actions sur son bien-être. InPower a aussi développé pour les organisations une solution intégrée et complète en matière de promotion et de prévention de la santé et du mieux-être pour les entreprises qui luttent contre le présentéisme et l'absentéisme. La démarche InPower aide à améliorer le mieux-être des employés et le rendement des organisations en faisant appel aux sciences sociales, au développement personnel et à l'analyse des données. Pour connaître les bénéfices de la solution InPower pour les organisations et les humains qui la composent, visitez le site inpower.com. De retour à l'épisode.
On parle beaucoup d'authenticité, ces temps-ci, et de vulnérabilité. Mm-hmm. C'est deux mots que j'adore. Mm-hmm. Surtout le mot vulnérabilité, parce qu'il y a une connotation, hein, ça vient du mot vulnérable. Mm-hmm. Vulnérable, souvent, ça veut dire, dans le jargon, faiblesse. Mm-hmm. Moi, je le vois différemment, je le vois comme quelque chose d'excessivement positif, te parler d'être dans toutes les facettes, de te démontrer comme tu es.
Ouais.
C'est quoi les bénéfices pour toi de cette authenticité que tu as durant l'entrevue, mais que tu as au quotidien? Est-ce que tu les vois, les bénéfices au quotidien de démontrer ta vulnérabilité et de parler de façon authentique?
Mm-hmm. Ben oui, puis moi, je commence par même... Une des choses dans la vie, tu sais, il y a le karma, il y a le cercle de la vie. On a tous des patrons. Même si le PDG, tu as un conseil d'administration, on a tous un patron ou un client, tu sais, même si tu as une PME, tu as des clients. Puis nous, comme employés de quelqu'un, on n'aime-tu pas ça, travailler avec quelqu'un d'authentique, de vulnérable? Moi, là, un boss, un patron qui dit ce qu'il pense, qu'elle pense, qui me dit qu'il y a une mauvaise journée, que, mettons, après un meeting tough, il dit « Ouais, ça, c'était tough », tu sais, quelqu'un qui est capable, parce qu'après ça, moi, je me dis « OK, on se parle franchement, cette personne-là est transparente, honnête, authentique, donc je peux être moi-même. Si jamais une journée, je glisse puis laisse passer une vulnérabilité ou moi-même dis « Oh, j'ai trouvé ça difficile », que je ne me sentirais pas jugée, tu sais, qu'il y a une tu sais, l'environnement sécuritaire, je pense, pour revenir à les bottines qui suivent les babines, parce que ça, je crois vraiment ça. Tu sais, de croire que les gens vont faire ce qu'on dit puis pas ce qu'on fait, là, ça fait longtemps que je crois plus ça, parce que je le vois que les gens font ce qu'ils voient les autres faire, surtout les hauts dirigeants. Tu sais, comme ça, c'est les normes. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu sais, il peut y avoir des règles écrites, mais finalement, là, ça va toujours finir par être ce qu'ils voient faire. Ils vont recréer. Donc, pour moi... Un environnement sécuritaire, c'est un environnement où tu peux faire des erreurs. T'sais, parce que quand on parle beaucoup de développement agile, d'être plus rapide, d'aller plus rapidement, plus performant, ça sous-entend que des fois, on va se tromper puis on va corriger. Ça va avec. Tu ne peux pas aller plus vite, tu ne peux pas être agile, tu ne peux pas innover puis espérer la perfection. Les deux n'iront pas ensemble. Fait que pour créer cet environnement sécuritaire-là, pour moi, c'est sous-entendu que ça dépend de la vulnérabilité de toutes les participants dans l'équipe, incluant le dirigeant. Ça peut pas être « Vous êtes toutes vulnérables, vous êtes correct, vous pouvez faire des erreurs, c'est correct, mais moi, je vais toujours être parfaite. »
Mais ça existe encore, cette impression-là, chez les leaders d'aujourd'hui. Moi, je le sens que... Tu as parlé de super-héros tantôt. Mm. Le syndrome du super-héros sur le leader qui est en haut de la montagne, puis qui a les bras sur les hanches, puis follow me et on s'en va à la guerre. Je te fais une tranche de vie, en fait. J'ai participé à une série d'articles. Je nommerai pas le journal sur la santé mentale des hauts dirigeants, des leaders ou des entrepreneurs. Et je parlais de l'importance de l'authenticité, de la vulnérabilité, que moi-même, en tant que dirigeant, la journée où ce que j'en ai parlé avec mes employés, ça a été instantané. J'ai eu 3 personnes dans mon bureau qui m'ont tous remercié puis qui m'ont parlé de leurs propres enjeux. 100%. Je suis devenu un meilleur gestionnaire quand j'en ai parlé ouvertement. Quand j'ai passé cette entrevue dans le cadre de la série d'articles, j'ai reçu un appel de la journaliste peut-être 24 heures après me disant... Il y a une question qui reste en suspens. C'est quoi le plan de contingence dans l'éventualité où est-ce qu'un dirigeant parle de ses enjeux de santé mentale et que tous les employés ou une forte proportion des employés quittent l'entreprise? j'étais flabbergasté. Parce que c'est encore une impression que si le gestionnaire ou le haut dirigeant d'une entreprise, disons, de 200 employés, parle qu'il a fait un burn-out ou qu'il va pas bien ces temps-ci, les employés vont avoir peur de la santé financière de l'organisation, de leur paye. Hey, mon Dieu, la business va tomber. Et ça m'avait vraiment choqué. Je me disais, on pense encore ça en 2024. Est-ce qu'on a fait des progrès? Bien, ça, c'est une entrevue que j'ai passée il y a quelques années. Est-ce qu'on fait des progrès où on est encore dans cette impression du super-héros leader et que s'il en parle, bien, c'est la business qui va tomber puis que les employés vont en souffrir?
J'ai deux pistes de réflexion sur ce sujet-là. Premièrement, c'est sûr qu'il y a encore du stigma relié à la santé mentale en général. Ouais. Parce que nous, on a justement, pendant la pandémie, on voyait pas beaucoup d'augmentation de l'utilisation des solutions reliées à la santé mentale, programme d'aide aux employés, par exemple. Puis on voyait partout que nous avons tous et toutes affectés au niveau santé mentale, ou surtout au début, là, quand on est passé de... Puis, tu sais, les gens qui restent au Québec, les gens à Montréal, on l'a vécu, tu sais, on a vu des couvre-feux. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, là, un couvre-feu, etc. Fait que toutes sortes de choses, tu sais, peu importe c'était quoi, là, les familles, toutes dans la même maison, tout le monde... fait que on a demandé aux gens pourquoi ils n'utilisaient pas plus les solutions, parce qu'on ne comprenait pas. On savait que les besoins augmentaient puis qu'il y avait des solutions payées par les employés. Puis les trois raisons qui ont été expliquées, c'est le stigma, tu sais, j'ose pas en parler puis tout ça. B, j'ai peur de ne pas pouvoir me le payer financièrement. Puis trois, je ne sais pas qu'est-ce qui est disponible. Fait qu'après ça, on a travaillé sur ces choses-là pour essayer d'aider. Fait que c'est sûr qu'il y a encore du stigma en général dans la société par rapport à parler de santé mentale. Par rapport aux dirigeants, mon hypothèse, encore, c'est juste une hypothèse, c'est que ça continue à évoluer, ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'emphase depuis quelques années sur, tu sais, en agile, ils appellent ça le servant leader, le leader qui est là pour appuyer l'organisation. C'est beaucoup ça en développement agile, puis en innovation, puis en technologie, c'est que les leaders ne savent pas tout. Le leader, il n'est pas là pour dire au monde quoi faire. Le leader est là pour mettre en place une équipe très performante, puis les appuyer, puis enlever les obstacles. Fait que je pense qu'il y a une évolution du rôle du leader même à travers le temps, puis vient avec ça, bien entendu, une plus grande vulnérabilité, etc. Je pense aussi, une hypothèse, que les plus jeunes générations ont des attentes différentes de leurs leaders, et donc pas moins de « dis-moi quoi faire », mais plus « donne-moi ta vision », donne-moi ce que j'ai, les outils, puis donne-moi un carré de sable pour pouvoir innover là-dedans. Donc, je pense que les attentes vis-à-vis gestionnaires. Moi, ce que j'ai vu, ce que je vois dans, premièrement, la Sun Life, certainement, il n'y a pas du tout cette culture-là. Nos très hauts dirigeants, là, PDG, président, parlent de santé mentale de façon régulière. Donc, pour nous, c'est dans la culture de l'organisation, ça fait partie, puis on utilise beaucoup, tu sais, CAMH disent « mental health is health », puis ça, ce slogan-là, ça nous parle. T'sais, la santé mentale, c'est la santé, puis il n'y aurait jamais ce genre de discussion-là sur mon diabète.
On ne peut pas dissocier la santé mentale puis la santé physique.
Exact. Puis on le voit aussi avec nos clients dans les organisations que les narratifs changent. La pandémie a joué un rôle positif, je pense, parce que nous, on a vu beaucoup d'organisations parler de santé mentale dans l'organisation. La pandémie a comme... C'est parce qu'on s'est tous retrouvés chez nous avec pas d'outils, avec du jour au lendemain, puis on s'est comme dit, c'est correct de se dire que ça va moins bien. Avant, il fallait se dire ça va bien tout le temps. Tu sais, on était dans le spectrum de comment ça va, très bien ou bien. C'était pas mal les deux choix. Tu sais, ça va pas bien, c'était pas tellement le monde. Hein. Mais là, on s'est comme dit, c'était correct de dire, sais-tu quoi, ça va moins bien, j'ai quatre enfants à la maison, je passais la journée sur Zoom, ma femme était dans l'autre salle, puis elle était aussi sur Zoom, on l'épicerie, il y avait un coup de feu, fait que c'est ordinaire. Puis c'est comme on s'est donné un petit peu cette liberté-là, puis que ça a continué. Mais je pense que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, puis je vois des dirigeants et des dirigeantes phénoménales qui parlent de santé mentale, de diversité, équité, inclusion, qui parlent de toutes sortes de choses, puis qu'ils font avec fierté. Fait que moi, je pense que j'ai beaucoup d'espoir que ça l'évolue.
Ton point sur les nouvelles générations qui entrent dans le marché du travail, pour moi, c'est un facteur clé. Mm-hmm. C'est vraiment un facteur clé. C'est des game changers pour moi. Mm-hmm. Parce que les dirigeants qui sont de la vieille école, là, je parle pas d'âge ici, là, vraiment d'une philosophie ancienne de gestion, vont se retrouver avec un sacré problème s'ils ont encore ces vieilles approches de micromanagement, par exemple.
Ouais.
Dis-moi, parlons de toi précisément. Revenons à... C'est quoi ton coffre à outils, Marie-Chantal, au quotidien? Comme on l'a mentionné, tu es une haute dirigeante. Mmh. Comment tu t'es développé un coffre à outils pour justement diminuer, je ne parlerai pas du mot contrôler, mais peut-être de diminuer l'impact de l'anxiété sur ton quotidien?
C'est une super bonne question. Une des choses, c'est que je dirais que, tu sais, pour moi, mon poste professionnel n'a jamais été un souci par rapport à l'anxiété parce que ça me donne quelque chose sur quoi me concentrer mon cerveau. Tu sais, mon cerveau qui a le goût de penser à bien des affaires puis faire plein de scénarios, ça le tient bien occupé. Fait que j'ai comme trouvé des... Puis des fois, il faut que je fasse attention là, de me donner du temps de ne pas réfléchir à quelque chose au sens de la vie à chaque minute de chaque jour, mais plutôt écouter une émission ou lire un roman ou quelque chose. Mais je vais donner deux, trois choses peut-être, des choses. Premièrement, je ne suis pas une athlète. Tu sais, il y a des gens là, qui se lèvent le matin puis qui mettent des sous-écoutes puis ils partent à courir puis c'est des gazelles. Mais moi, c'est tellement pas ça. Mais je le fais pareil. Fait que je fais de la course, j'ai commencé à faire des triathlons, etc. J'ai incorporé le sport de façon très régulière avec un groupe. Fait que le groupe, ça me tient responsable parce qu'ils sont là, puis ils m'attendent tout à l'heure à 6 heures ce soir, ils vont être là. Puis si je suis pas là, ben après, il faut que j'explique. Hein. Fait que si j'ai une bonne raison, c'est correct. Si j'ai une moins bonne raison, c'est moins le fun. Fait que la santé, je pense vraiment que le sport physique, puis ça c'est pour moi, c'est n'importe quoi que les gens aiment. Là. C'est une marche, c'est faire du tir à l'arc, du patin.
Ouais.
Fait que c'est pas grave, c'est quoi?
Bouger,
je pense que ça a eu un très bon impact pour moi. Je le garde dans mon... Puis souvent, là, presque tous les jours, si possible. Puis pas tous les jours aller courir pendant des heures, mais tous les jours faire quelque chose pour que mon cerveau puisse s'oxygéner puis pouvoir sortir un petit peu le trop d'énergie. Ça fait partie de ça. Deuxièmement, je pense, puis ça, j'ai un privilège d'avoir un groupe de sponsors, mentors. Puis on parle pas d'anxiété dans ces choses-là, on parle de travail, on parle d'un enjeu, on parle de choses comme ça, mais tu sais, je pense que les choses ont beaucoup évolué où est-ce que les gens s'appuient beaucoup. Donc, avoir un groupe d'appui, des gens avec qui je peux faire, que j'ai confiance, puis à qui je peux me confier sur mes vertiges, sur mes... Puis honnêtement, il y en a beaucoup là-dedans qui m'ont propulsé dans des choses. Tu sais, c'est « ben oui, vas-y, t'es capable! » Tu sais, un petit « ben oui, voyons! » Fait que ça, puis même, tu sais, mentionner mon nom à une table que j'avais pas pensé encore. Fait que, tu sais, des fois, puis ça, c'est pas juste l'anxiété, là, mais tu sais, les femmes, on a beaucoup de doutes, hein. Fait que, tu sais, puis pas juste les femmes. En général, les gens peuvent avoir des doutes. Fait que, tu sais, d'avoir des gens qui m'ont propulsé, qui ont cru en moi, puis tout ça, ça aussi, c'est... Fait que, tu sais, m'entourer de monde, là, qui ont juste le goût que moi, j'ai du succès, puis moi, j'ai le goût qu'eux, ils en aient du succès, puis que je veux juste faire la même chose pour eux et elles. Ça m'a beaucoup aidé. Puis encore, je compte sur eux et elles tous les jours, puis ils me sauvent la vie tous les jours, puis il y a beaucoup de choses professionnelles auxquelles je leur dois. Puis finalement, je dirais, continuer à... Tu sais, quand je parlais tantôt de ce que l'anxiété, tu sais, ce que j'ai appris dans la TTC, croire que peu importe ce qui va arriver, je vais être capable, puis m'entourer... c'est le point peut-être le plus important. J'ai une gang phénoménale. Avec qui je travaille, pour moi, ces gens-là sont tellement brillants, innovateurs, etc., que même si je me trompe, même si je fais une erreur, ils sont tous là. Puis j'espère qu'ils ressentent la même chose de moi. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ça m'enlève tout un poids. Puis honnêtement, ben c'est la chose à faire. Là. Mais tu sais, je me sens pas toute seule. Je me sens pas ça. Je me sens que j'ai les meilleurs collègues sur la planète, puis je me sens vraiment... On n'est pas toujours d'accord, là. C'est pas une affaire d'unanimité, mais on a les valeurs alignées puis à bonne place. Puis tous et toutes ensemble, on peut pas mal faire n'importe quoi. Fait que quand je le crois peut-être pas pour moi une demi-seconde, eux autres et elles le croient. Fait qu'ensemble, on va y arriver, puis j'espère que c'est réciproque.
Dernière question pour toi, Marie-Chantal. Disons qu'un de nos auditeurs est haut dirigeant d'une entreprise, et c'est sûrement le cas en ce moment, et tu devais t'adresser à lui par rapport à cette possible ouverture, on parlait d'authenticité, vulnérabilité, à cette possible ouverture de parler de ses enjeux de santé mentale, tu lui dirais quoi?
C'est très délicat parce que chacun vit les choses à son propre rythme, de sa propre façon. Je peux juste parler de qu'est-ce qui est arrivé pour moi. Puis si moi j'étais un exemple de un. Premièrement, il y a dans tous les scénarios là, que je pense quand j'ai fait mon coming out ou quand j'ai parlé de santé mentale ou tout ça, il n'est jamais arrivé quelque chose qui était de loin proche de ce que j'avais imaginé dans ma tête. Tu sais? Aucun, le zéro, là.
Les scénarios catastrophiques.
Ah oui, mais oui, c'est ça leur nom.
C'est à base de l'anxiété.
Les scénarios catastrophiques, il en est arrivé zéro.
Ouais.
Et à l'inverse, des choses inattendues. Tu sais, tantôt, tu parlais, Martin, de monde qui vient te voir puis qui te raconte leur expérience puis qui dit « Hey, my God, ça m'a tellement fait du bien que tu parles de ça parce que moi, là, je vis ça, là, puis je me trouve, tu sais, je pense... » On pense tous qu'on est la seule personne au monde, hein?
Exact.
Fait qu'on pense qu'on est la seule personne au monde. Et encore pire, quand t'es le patron, la patronne qui, théoriquement, est le super-héros. Fait que t'es tout seul au monde et t'es supposé d'être parfait en plus. Fait que moi, il m'est arrivé rien de tout ça. Il m'est arrivé juste du bon. Puis je le sais que ça fait stéréotype que je dis ça tout haut, là. Mais c'est ça pareil.
Mm-hmm.
Donc, moi, je peux dire probablement que c'est pas... Il n'y arrivera rien de tout ça. Deuxièmement, je pense suivre son rythme, c'est ça qui est idéal. Tu sais, moi, je l'ai fait quand j'ai pensé que je... pouvait puis que je voulais. Fait que ça, suivre son rythme. Il n'y en a pas de recette dans rien. Fait que suivre son propre rythme. Puis troisièmement, on le sait dans la vie, c'est qui nos alliés. Peut-être commencer par eux, c'est sécuritaire. T'sais, on le sait, là, qui c'est qui est là puis qui démontre toujours de la bienveillance envers nous, un collègue, un patron, une patronne, peu importe.
Un membre de la famille.
Un membre de la famille.
Comme des espèces de cercles concentriques. Tu
exact.
Pars avec un petit cercle autour
exact.
De toi et tu
exact.
Agrandis tranquillement. Exact. C'est comme exact. Ça que tu le vois?
On le sait, hein, dans le fond de tu sais, de... Fait que je dirais... Puis finalement, moi, je crois ça, puis tu sais, je l'ai dit mille fois, là, je me répète encore, mais... Je pense que plus on le fait, plus on le fait. Il y a vraiment un mouvement de momentum dans démystifier, déstigmatiser, puis se dire, mais c'est tout à fait normal. On a tous des enjeux de santé, tous, puis c'est pas tout pareil, mais c'est tous des enjeux de santé, puis c'est toutes des choses qu'on s'outille. Plus on en parle, plus on a des solutions. Fait que, on en a tous et toutes des enjeux de santé. Il n'y a pas personne de parfait. Il n'y en a pas de piédestal. Puis certainement, nous autres, on n'est pas parfaits. Puis si quelqu'un dit ça, c'est impossible et inatteignable.
Moi, mon souhait, là, que dans 20 ans, quelqu'un tombe sur cette entrevue-là, un jeune de 20 ans, puis qu'il se dise, ben voyons donc, c'était donc ben rock'n'roll en 2024. Tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde en parle. Hey Marie-Chantal, c'était extraordinaire comme entrevue. Merci d'avoir
merci
accepté.
Merci beaucoup, puis merci pour ton excellent travail que tu fais, parce que c'est en parlant, geste par geste, qu'on fait une différence. Tu fais une grande différence pour beaucoup de nous. Merci beaucoup.
J'apprécie beaucoup.
Merci.
Et ça met fin à cet épisode du balado entre les deux oreilles. Premièrement, un immense merci à mon invité cette semaine, Marie-Chantal Côté, vice-présidente garantie collective à la financière Sun Life. D'ailleurs, un grand merci à la financière Sun Life et à Sun Life Canada pour leur support et surtout à Mylène Bélanger pour la planification et la coordination de cet épisode tout spécial. Merci à nos partenaires Relief, le chemin de la santé mentale, et à InPower. Bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, bien, on vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme favorite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous poser des questions. On aime beaucoup interagir avec vous. Et bien sûr, vos commentaires, vos likes, bien, ça permet de faire jaillir ce balado sur les différentes plateformes. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, on est facile à trouver. Et venez nous visiter sur notre site web au www.entrelesdeuxoreilles.ca. Vous allez y trouver l'ensemble des épisodes du podcast, des textes et un répertoire des ressources d'aide partout au Québec. Donc, en mon nom personnel, Martin Binette, et au nom de Lydia Mignot, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode du balado en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles.